J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin, Catherine Vitol de Venden. Pouvez-vous venir à la barre, s'il vous plaît? Et je vais vous demander naturellement le même exercice. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour?
Monsieur le Président, je m'appelle Catherine Vitol de Venden. Je suis directrice de recherche au CNRS et j'ai écrit sur les frontières.
Merci beaucoup. Comme votre prédécesseur, vous allez être interrogé d'abord par la procureure Holzer, ensuite par Maître de la Porte. Mais avant cela, pouvez-vous vous aussi jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main droite et dites « Je le jure ».
Je le jure.
Merci. Madame la procureure, le témoin est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Selon vous, qu'est-ce
Est-ce que je peux simplement vous demander de faire un pas de côté pour que je n'ai pas à me tordre pour voir la télé?
Selon vous, qu'est-ce qui est plus important? Le droit des États souverains de contrôler leurs frontières ou le droit des humains à la libre circulation?
Je pense que le droit à la libre circulation est un droit émergent. Aujourd'hui, les deux tiers de la population mondiale ne peuvent pas circuler librement, ça a été dit, à cause de l'obligation de visa. Et il y a une sorte de conflit entre, d'un côté, les États qui veulent continuer à gérer leurs frontières de façon classique dans l'ordre international des États, et de l'autre côté, les personnes qui circulent et qui se disent que tout circule, sauf les hommes et les femmes dans le monde. En fait, les frontières, aujourd'hui, elles sont souvent symboliques. L'État, pour exister, dit qu'il a sa frontière, pour montrer qu'il est souverain. Mais en fait, l'économie, les idées, les médias et beaucoup d'autres choses circulent en fait à travers les frontières, transgressent en permanence les frontières. Et il y a une sorte de fiction de frontières étanches pour toute une série de biens et services et aussi pour toute une série de personnes qui, eux, n'ont pas besoin de montrer patte blanche pour traverser les frontières.
Et donc, comment pourrait-on imaginer une ouverture possible des frontières pour un meilleur vivre ensemble?
Alors, je pense qu'on pourrait imaginer d'ouvrir plus pour plus de personnes. Aujourd'hui, les frontières sont fermées pour tous ceux qui sont considérés comme représentant un risque migratoire, pas tellement en raison de leur profil personnel, mais en raison du pays d'où ils viennent. Et pour certains, on ne peut quasiment aller nulle part parce qu'on leur impose des visas, quelle que soit la destination qu'ils se proposent d'atteindre, parce qu'ils viennent de pays pauvres et mal gouvernés et parfois en guerre. Donc c'est une assez grande injustice à l'échelle mondiale, parce que c'est une inégalité qui est liée au passeport. Et donc, on voit tous les effets de ces inégalités à travers ces personnes qui meurent aux frontières, ça a été dit, qui se retrouvent dans des camps, qui sont des sans-papiers, qui peuvent attendre pendant des années une solution légale à leur présence sur un territoire qu'ils ont atteint illégalement ou dans lequel ils se sont installés illégalement après être entré légalement. Et il y a une sorte de friction, si j'ose dire, entre un monde qui bouge d'un côté et des États qui se referment. Et aujourd'hui, il est plus facile de sortir de chez soi que d'entrer quelque part. Et dans le passé, c'était l'inverse. Il était difficile souvent de sortir de chez soi et assez facile d'entrer dans des États qui souhaitaient se peupler ou qui souhaitaient de la main-d'œuvre. Donc la logique migratoire s'est inversée en un siècle.
Pour ce qui est la fermeture ou la sécurisation des frontières dans nos pays, est-ce que ce n'est pas un gâchis économique de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup des milliards, des millions pour sécuriser les frontières?
Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est consacré au contrôle des frontières, qui, par exemple pour l'Europe, est assorti de toute une série d'instruments assez connus, le système Frontex pour gérer les frontières extérieures de l'Europe, notamment en Méditerranée, la prise des empreintes digitales, les centres de rétention et toute une série de camps qui sont construits aux portes des États que l'on veut protéger. Et on s'aperçoit que cet argent, finalement, pourrait être utilisé à autre chose, puisqu'on a quand même 30 ans d'échec, si j'ose dire, dans l'acharnement d'un certain nombre de grandes destinations au monde à vouloir rendre leurs frontières étanches, ce qui est une utopie. L'utopie, ce n'est pas l'ouverture des frontières, c'est leur fermeture, d'une certaine façon. Et économiquement, c'est un pari qui est perdant, parce que si plus de personnes pouvaient circuler à travers les frontières, ils pourraient d'une part envoyer plus d'argent dans leur pays, 530 milliards de dollars envoyés chaque année par les migrants du monde entier chez eux, il ne faut pas l'oublier, mais également ils pourraient créer des entreprises de part et d'autre de la frontière, précisément, aller et venir en fonction des besoins de l'économie, ce serait aussi des consommateurs un peu plus assurés que ceux qui sont sans papier et qui rasent les murs quand ils ont osé transgresser la frontière. Donc on est perdant économiquement. Si j'ose dire, le politique est en contradiction avec l'économique dans cette affirmation de la fermeture de la frontière.
Donc au final...
Dernière question, madame la procureure.
Dernière petite question. Au final, les frontières posent des problèmes et pour les migrants et pour les pays d'accueil et pour les nationalistes qui ont des arguments contre.
Les arguments qui disent qu'il faut davantage ouvrir les frontières, il ne faut pas oublier que c'est le thème du pacte de Marrakech de 2018 qui dit pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas faire appel à des passeurs pour traverser la Méditerranée? Donc ça veut dire ouvrir davantage les frontières, même si ça n'est pas dit dans la langue de bois du discours international comme tel, mais c'est ça, une immigration sûre, ordonnée et régulière. Et en fermant les frontières, on viole tous les jours les droits de l'homme, tous les droits sont souvent fortement violés, transgressés, à travers précisément... le contrôle des frontières, à travers les centres de rétention, à travers les reconductions à la frontière, pour lesquelles il y a beaucoup de bavures policières. Aujourd'hui, il y a une sorte de fiction, si j'ose dire, que l'on va maîtriser les migrations dans le monde par les États, alors que le phénomène migratoire est une tendance structurelle du monde d'aujourd'hui.
Merci, madame la procureure. Merci. Monsieur le Vocat, je vous en prie.
Merci.
Non, madame le témoin, restez à la barre. Madame de Venet, restez à la barre.
Merci, monsieur le président. Madame Vittel de Madden, vous défendez avec une très grande éloquence l'ouverture des frontières. Mais défendre l'ouverture des frontières, ça n'est pas défendre leur abolition.
Ah non, pas du tout. Je dis qu'il faut ouvrir davantage. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir les frontières tous azimuts demain. Je dis que l'objectif doit être... plus d'ouverture des frontières et, si possible, dans un certain nombre de situations, plus de frontières, ce qui était le cas du projet européen, par exemple.
Monsieur Lewaka, pouvez-vous faire... Pardon ? Vous êtes plus grand que la témoin, donc je ne peux la voir.
Oui, mais vous la connaissez, puisque je vous dénonçais aussi un problème de collusion très net, qui est que derrière, quand vous êtes... vous avez dit bonjour Catherine, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Je voudrais signaler ça au juré.
L'impartialité de la présidence
quand même,
de ce cours
savoir
ne peut
de
être mise en cause.
Madame de Vinden, car on ne se connaît pas, nous. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un monde où on circule,
oui, tout à fait,
avec des frontières.
Tout à fait. Bon. Alors, en fait, ce monde où l'on circule avec des frontières, déjà, il y a un certain nombre de frontières qui se sont estompées. Par exemple, pour les Européens, la liberté de circulation qui fait partie de la citoyenneté européenne est un élément essentiel, si j'ose dire, pour les Européens, que de pouvoir circuler avec un titre d'identité éventuellement national ou même pas du tout si on traverse à pied et qu'on ne vous demande pas vos papiers. Donc l'Europe est un espace de libre circulation. Il y a pour les travailleurs le marché nordique du travail qui est un autre espace. On a eu à peu près 22 espaces dans le monde de libre circulation, surtout pour le travail. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, également l'UNASUR pour l'Amérique du Sud, l'ASEAN pour l'Asie, etc. Donc on va vers quand même des frontières qui s'estompent, notamment pour les travailleurs à l'échelle mondiale.
Mais est-ce que la disparition d'une frontière, ou son estompement jusqu'à sa disparition, est-ce qu'elle garantit l'égalité des droits à l'intérieur? Pas forcément.
Pour les Européens, oui, quand même, la suppression des frontières pour les Européens à l'intérieur de l'Europe a permis précisément d'asseoir la citoyenneté européenne, puisque l'essentiel de la citoyenneté européenne, c'est la liberté de circulation, d'installation et de travail, l'égalité des droits entre Européens et notamment la possibilité de mobilité pour ces Européens.
Et comment peut-on être sûr? Quelles seraient les conditions d'existence d'un monde sans frontières? complètement sans frontières.
Il faudrait que ce soit un monde beaucoup plus égalitaire.
Si... Donc elles ne sont pas du tout réunies aujourd'hui.
Non, elles ne sont pas du tout réunies pour l'instant. C'est pourquoi les migrations sont si difficiles pour certains et si faciles pour d'autres. La frontière crée des effets pervers. C'est ça que je veux essayer de montrer.
D'accord.
Plus on ferme les frontières, plus les gens s'installent de façon aléatoire dans la clandestinité.
Oui.
Ils ne peuvent pas revenir chez eux. Ça bloque les allers-retours, si j'ose dire.
Oui,
plus on ouvre, plus les gens circulent et moins ils s'installent. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu pour l'ouverture à l'Est de l'Europe, ce qu'on voit pour les doubles nationaux, etc. Ce qu'il faut, c'est arriver à un monde beaucoup plus fluide, un monde où les personnes circulent comme les idées, les marchandises, les médias, etc. Et c'est bloqué, si j'ose dire, par l'existence de ces frontières qui créent précisément ces situations d'illégalité. Pourquoi est-ce que quelqu'un est plus illégal qu'un autre, par exemple ?
Mais par exemple, un réseau social comme Facebook qui n'a pas de frontières, c'est désirable pour vous ?
Ça peut l'être, à condition de contrôler le contenu éventuel. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui circulent. Le commerce est très largement mondialisé. Et pour toute une série d'éléments comme les études, par exemple, on a beaucoup ouvert les frontières pour les étudiants à l'échelle européenne et mondiale.
Mais ma question est que si les conditions ne sont pas réunies pour une ouverture des frontières, pour une disparition, hein, pas ouverture, disparition des frontières, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un monde qui n'est pas même celui que vous désirez ?
Excusez-moi. Oui. Monsieur le Président,
Madame
les
le
questions
procureur.
Sont complètement orientées.
Bah oui.
Bien sûr, Madame le procureur, l'avocat est libre de mener l'entretien comme il lui convient.
Il essaie de mettre la témoin dans un coin avec ses questions.
Encore une fois, Madame le procureur, je n'ai pas à interférer dans la manière dont l'avocat de la défense conduit l'entretien.
Donc,
poursuivez, maître.
Donc, ma question.
Un monde plus égal pourrait permettre d'avoir beaucoup plus de frontières qui s'estompent ou qui disparaissent.
Oui, mais la disparition des frontières ne garantit pas un monde plus égal.
Non, c'est l'inverse. C'est le monde plus égal qui permet la disparition des frontières.
J'en ai fini. Merci, madame.
Merci, maître. Madame Vittel de Venden, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous pouvez maintenant retourner à votre place.